Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. J'ai mis dans le titre intelligence point d'interrogation, artificielle point d'interrogation, car l'idée de cette présentation, elle est coupée en deux, parce que ça paraît très difficile de parler d'intelligence artificielle sans essayer de savoir ce que c'est que l'intelligence elle-même. Et donc, cette présentation aura deux parties. Une première, on essaiera de voir ce que ça peut être que ce concept qu'on appelle intelligence. Et ensuite, un peu des détails sur ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne. Donc, d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Guillaume Muller, je suis docteur en informatique, enseignant à l'école des mines de Saint-Étienne, et mes sujets de recherche et d'enseignement, ce sont principalement l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Voilà, je me suis présenté. Maintenant, l'idée, c'est de savoir un peu qui vous êtes pour que je puisse adapter un peu la présentation. Quels sont vos domaines d'intérêt? Est-ce que l'informatique et l'IA en fait partie? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans des domaines complètement différents? Ou est-ce que plutôt côté philosophie, psychologie, sociologie, etc., mais qui, potentiellement avec l'intelligence et l'intelligence artificielle comme sujet? Ok, donc j'ai l'impression que parmi le public aujourd'hui, plutôt des personnes qui n'ont pas du tout de contact avec l'informatique, voire pas du tout avec ce concept d'intelligence artificielle ou en tout cas les concepts d'intelligence d'un point de vue socio ou psycho. Donc ça tombe bien parce que la présentation est vraiment destinée un peu à tout le monde. Ensuite, est-ce que vous, en tout cas consciemment, êtes utilisateur d'outils d'intelligence artificielle? Ok, donc pas beaucoup d'entre vous ont l'air d'en utiliser. Alors après, comme je disais, c'est peut-être pas conscient. Donc on verra un peu plus tard, peut-être si je présente certains outils, peut-être que vous les utilisez sans le savoir. Et ensuite, une petite dernière question, qu'est-ce que vous attendez un peu de cette conférence? Voir ce que j'ai à dire un peu sur l'intelligence artificielle. Ok, voilà. Alors la première chose, c'est que voilà, je tiens à préciser quand même, j'ai déjà fait une présentation de ce type-là à des amis, dont l'un est présent ici dans la salle. Qui sont soit informaticiens, soit socio-cognitivistes, et voilà, ils n'étaient pas forcément d'accord avec tout ce que je dis dans la présentation ici, et notamment ils disaient qu'elle est très orientée vision informaticienne. Alors c'est un peu mon but ici, puisque mon but c'est quand je discute tous les concepts un peu qui pourraient être liés à l'intelligence, à la fin c'est de vous amener à des définitions entre guillemets qui sont celles plus ou moins qu'on utilise en intelligence artificielle, ou en tout cas qui sont sous-jacentes aux approches qu'on utilise en intelligence artificielle. Et autre chose que je voulais souligner, je suis vraiment désolé, mais voilà, dans le domaine de l'informatique, vous le savez, malheureusement, on utilise beaucoup de termes en anglais. Alors il y a des fois, il y a des expressions francisées qui existent, mais peu de gens les utilisent, donc je suis désolé, mais j'ai la fâcheuse tendance à utiliser beaucoup de mots en anglais. Veuillez m'en excuser, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter tout de suite. Alors, la première chose, donc comme on disait, aujourd'hui on va essayer de parler d'intelligence artificielle, mais comme je le disais, la première chose c'est d'essayer d'avoir, enfin, je n'oserais pas dire définir l'intelligence puisqu'on n'y arrive pas, mais en tout cas d'essayer de toucher du doigt un peu qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot intelligence, avant de pouvoir parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment nous, informaticiens, on essaye un peu de copier l'intelligence humaine avec des techniques plus ou moins inspirées de la vraie vie d'ailleurs. Alors, première chose, voilà, on va essayer de définir ce que c'est que l'intelligence, on sait toucher du doigt ce que ça peut être. Première question, c'est, voilà, je vais essayer de faire ça de façon interactive pour que ce soit rigolo. Première question, c'est, si je prends le point de vue individuel d'un objet, je l'observe, voilà, un objet d'étude, hein, au sens général, et on va se poser la question, est-ce que cet objet est intelligent? Donc, par exemple, je commence par un vrai objet, typiquement, par exemple, une chaise. Voilà, à votre avis, est-ce qu'une chaise est intelligente? Okay, donc la plupart d'entre vous ont l'air d'être d'accord sur le fait qu'une chaise c'est pas intelligent. Si vous je demande maintenant pourquoi c'est pas intelligent, ok, la plupart d'entre vous ont l'air de dire que bon, j'ai l'impression qu'on tourne autour du fait que c'est inanimé. Mais alors du coup, ma question un peu piège derrière, c'est du coup un ordinateur c'est un objet inanimé aussi. Donc du coup ça pourra jamais être intelligent, d'après vous. Donc ok, je m'en vais, fini la présentation. Non mais voilà, bon, voilà. C'était juste pour vous faire remarquer que c'est pas si simple que ça. Donc ensuite, on va essayer de faire un peu dans un ordre un peu croissant, alors vaguement, hein, parce que je n'ose pas dire qu'il y a un ordre dans les dans les éléments sur Terre et leur intelligence, mais donc voilà, première question, si on va dans le monde végétal, est-ce que vous pensez qu'un arbre c'est intelligent? Ok, alors je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être lu des livres qui ont été très connus récemment, effectivement, où en tout cas il est connu scientifiquement que les arbres sont capables de communiquer, effectivement, par des molécules chimiques ou par leurs racines. Donc voilà, donc pourquoi pas dire qu'un arbre est intelligent parce qu'il est capable de communiquer. Ok. Maintenant, un champignon, est-ce que à votre avis c'est intelligent ou pas? Ok, alors ça l'a moins décidé, je sais pas, donc là je vais pas vous montrer la vidéo, mais si vous cliquez sur le mot champignon, il y a une petite vidéo où on montre, il y a un petit labyrinthe qui est fait dans du plexiglas, on met une goutte d'eau sucrée à un endroit, et puis on met un champignon complètement à l'opposé. Et si on passe en accéléré la vidéo, on voit que bah, le champignon il grandit, 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 jusqu'à ce qu'à un moment où il arrive à trouver la source de sucre. Donc voilà, il arrive à résoudre un problème qui est quand même relativement complexe d'arriver à sortir d'un labyrinthe. Donc voilà, est-ce que ça c'est intelligent ou pas? Bon, ça peut se discuter. Ensuite, si on rentre dans le domaine des animaux, bah, les premiers qu'on va prendre sont par exemple les insectes. Est-ce qu'une fourmi, une abeille, un cafard, à votre avis, est-ce que c'est intelligent? Alors évidemment, les fourmis, peut-être certains d'entre vous ont lu Les fourmis de Bernard Werber. Un film de science-fiction, un livre pardon de science-fiction qui raconte le contact humain entre une société de fourmis et un humain. Mais du coup, oui, alors je pense de la même façon, on voit souvent quand on regarde une fourmilière que bah, la société des fourmis dans son ensemble est capable de résoudre des problèmes assez complexes, notamment bah, de survivre et de se reproduire pour avoir une génération suivante. Ou les abeilles, vous avez certainement entendu parler aussi que les abeilles sont capables de communiquer. Ensuite, si on descend bah, dans les fonds marins, on va regarder du côté des mollusques, par exemple, est-ce que vous pensez qu'une pieuvre est intelligente? Alors là, il y a beaucoup de films, de documentaires ou autres. Je me demande d'ailleurs si Cousteau n'a pas fait un documentaire sur les pieuvres. Enfin, peut-être pas entièrement, mais en tout cas, il y a un passage sur une pieuvre qui s'échappe d'un labyrinthe. Donc, pareil, on sait que les pieuvres sont capables de résoudre des problème assez difficile. Alors après, elles ont un corps très très souple, donc c'est assez fantastique comment elles sortent d'aquariums ou autres, mais elles sont aussi capables de résoudre des problèmes difficiles. Il y a une vidéo, je crois que c'est celle que je vous ai mise, si vous cliquez sur le lien pieuvre, vous verrez, c'est une pieuvre qui est capable, qui a trouvé au fond, sur un fond marin, deux morceaux, deux moitiés d'une noix de coco, et donc bah, elle attrape cette noix de coco, elle se rentre dedans, et elle marche sur deux de ses petites pattes à l'extérieur, donc et elle se déplace, et elle reste comme ça, camouflée en permanence, et cachée, et protégée même, puisqu'une noix de coco c'est solide, par une noix de coco. Donc elle est capable d'utiliser des outils qu'elle a trouvés dans l'environnement. Et je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu, il y a aussi un film récemment, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais un film où tourne autour de la notion d'une fête, d'une, entre guillemets, amitié entre un être humain, un plongeur, qui va tous les jours voir une pieuvre qui se trouve au même endroit et qui elle-même vient le voir tous les jours au même endroit. Ensuite, si on rentre dans le monde des animaux, les plus directs descendants de nos amis les dinosaures, est-ce que vous pensez qu'un cacatoès, un perroquet, un corbeau, un pigeon est intelligent? Alors, ben, souvent pour les pigeons, on trouve que c'est un peu con. Par contre, pour les cacatoès, perroquets, corbeaux, j'imagine que vous avez déjà vu ces vidéos où on arrive à leur faire résoudre des problèmes un peu complexes. Par exemple, attraper une noix où il faut utiliser un outil et aller pousser et résoudre un espèce de labyrinthe en poussant la noix d'une certaine façon très précise pour aller récupérer la noix ou l'amande. Du côté des perroquets et des cacatoès, vous avez peut-être déjà vu aussi ces trucs assez extraordinaires, puisque un perroquet, on sait qu'il est capable d'imiter la voix, et on pensait pendant très longtemps que c'était juste une imitation de voix, mais qu'il ne comprenait rien à ce qu'il disait, et il a été montré avec deux ou trois, en tout cas, spécimens un peu particuliers, que dans un laboratoire, je crois que c'est en Angleterre, de cacatoès, qui sont capables, on peut leur montrer par exemple trois objets, et lui dire, montre-moi la clé qui est bleue. Et il est capable de montrer la clé qui est bleue, ou on peut lui dire de quelle couleur est le cube, et il répond vert quand le cube est vert. Donc voilà, on pense de plus en plus que non seulement ils sont capables d'imiter notre voix, mais en plus ils sont pas si bêtes que ça. Maintenant, si on retourne dans la mer ou dans les rivières, du côté des poissons par exemple, alors si je prends plutôt les requins par exemple, est-ce que vous pensez que les requins sont intelligents? Alors, j'ai des réponses assez mitigées, mais les vidéos que je vous ai mises en lien, ça montre que, en tout cas, on est capable de montrer que la même espèce de requin, certaines qui se trouvent, je crois, du côté de l'Afrique du Sud et d'autres plutôt du côté des États-Unis ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, elles ont des façons de chasser qui sont très spécifiques à l'endroit où elles sont sur Terre. Donc, il semblerait qu'elles aient développé ce qu'on appelle aujourd'hui une culture, puisque potentiellement, c'est la même espèce, donc ce sont des individus similairement constitués, donc elles n'ont pas de différence physique qui pourrait expliquer qu'elles se comportent différemment. Par contre, dans un groupe particulier, il semblerait que tous les membres se comportent d'une façon qui a l'air d'être en plus apprise des parents vers les enfants. Donc, est-ce que la culture, ça fait partie de quelque chose qu'on pourrait appeler l'intelligence? Ensuite, si on vient chez les mammifères, alors là, on arrive par exemple le rat, le chien, le chat, le dauphin, l'orque, le singe, les humains. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ou pas? Alors, il y a plein d'expériences qui sont faites chez les rats. Je pense que vous avez déjà vu, pareil, ils sont capables de sortir de labyrinthes, ils sont capables de s'entraider, de collaborer, etc. pour résoudre des problèmes difficiles. Vous avez dû voir la même chose sur les dauphins. Les dauphins sont très joueurs et aiment beaucoup venir jouer avec les êtres humains. Ils s'amusent à résoudre des problèmes difficiles. Les orques, comme les requins, on a montré qu'ils avaient des cultures dans différentes espèces. Les singes, on a montré qu'ils étaient capables de chasser un peu comme les loups en meute, donc d'avoir une organisation sociale et une cohésion quand ils mènent une attaque. Et puis, à l'opposé un peu, pour rigoler, j'ai mis le mot humain avec deux liens vers des vidéos un peu humoristiques de comportement humain complètement stupide. Du coup, la question, c'est, l'humain, on se considère souvent, alors je pense que vous dans la salle qui êtes intéressé par ces sujets ne sont pas de ce bord-là, mais il y a des gens qui considèrent que l'être humain est forcément l'espèce topissime au-dessus de toutes les autres sur Terre et qu'elle a tous les droits sur les autres parce qu'elle est plus intelligente que les autres. Mais en fait, quand on voit comment se comportent certains humains, on peut se poser la question de savoir est-ce que finalement l'humain il est si intelligent que ça? Et notamment, une des grandes questions aujourd'hui sur tout ce qui est développement durable et changement climatique, on sait tous aujourd'hui que le changement climatique est lié à nos comportements, et pourtant la plupart d'entre nous ne changent pas leur comportement, donc on sait qu'on va à notre perte et on continue à le faire et de plus en plus vite. Donc est-ce que c'est vraiment un comportement intelligent que de se comporter comme ça? Voilà, bref, donc là on s'est concentré sur un individu, une entité en particulier, en essayant de caractériser est-ce qu'elle est intelligente ou pas. Maintenant, est-ce que on pourrait pas se poser la question de se dire mais en fait c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut comparer en fait deux entités, dire par exemple, si je prends un cafard et un cacatoès, est-ce qu'un cafard est plus intelligent qu'un cacatoès et pourquoi? Alors je vous laisse me répondre. Ça n'a pas l'air très tranché, je pense qu'effectivement c'est une question difficile de savoir si on peut comparer les intelligences. Certains d'entre vous me disent que de toute façon il y a plusieurs formes d'intelligence, plusieurs degrés d'intelligence. Voilà, c'est effectivement des choses que j'essayais de vous faire dire. Maintenant, on peut continuer comme ça. Est-ce que le chat est plus intelligent que le dauphin? Est-ce que l'humain est plus intelligent que le singe? Voilà. L'idée, c'est qu'est-ce qui pourrait caractériser le fait, quand je fais ces comparaisons, quel serait le critère qui permettrait de dire qu'un animal, par exemple un singe, est plus intelligent qu'un autre? Donc, on a évoqué déjà tout à l'heure en caractérisant, voilà, est-ce qu'on a par exemple la communication, la culture? Est-ce qu'on, ces animaux sont capables de faire preuve de jeu, d'humour, de créativité, d'avoir des émotions? Donc pour tout ça, je vous ai mis des petits logos à côté pour vous montrer que on retrouve ces différentes caractéristiques chez les différents types d'animaux. Donc c'est des choses qui finalement, alors à différents degrés, à différents stades de vie, etc. Mais ce sont des choses qui existent chez à peu près tous les animaux. Et notamment, par exemple, le dernier sur les émotions. Je pense que parmi vous, là, j'en connais certains qui sont très très attachés à des animaux, particulièrement leurs animaux à eux ou les animaux en général, mais qui sont un peu comme moi, à avoir tendance à un peu anthropoïser, je ne sais pas comment on dit, certains animaux et à leur associer des pensées qui sont généralement plutôt type humaine. Mais en tout cas, pour les émotions, je vous ai mis deux vidéos assez intéressantes. Donc la première sur les éléphants. Où, donc du coup, la petite vidéo montre un groupe d'éléphants dont ils sont un peu bizarres, ils sont attroupés les uns autour des autres. Et puis, quand la caméra s'approche un peu, on observe que la plupart d'entre eux ont un comportement assez bizarre où en fait ils se balancent d'une patte sur l'autre avec la trompe qui balance comme ça. Et font une espèce de danse, et puis en fait, au bout d'un moment, quand il y en a un ou deux qui s'écartent, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un éléphant par terre et qu'il est mort, en fait. Et c'est quelque chose, c'est un comportement qu'on a observé très très régulièrement, donc dans plein de groupes d'éléphants différents, que à chaque fois quasiment qu'ils sont face à un éléphant mort, ils ont cette espèce de danse où ils balancent d'une patte sur l'autre et ils balancent la trompe d'une certaine façon. Et donc du coup, bah, voilà, si on anthropomorphise un petit peu la chose, on peut se dire qu'ils ont une espèce de cérémonie, alors je sais pas si c'est d'adieu, mais en tout cas, voilà, un comportement en tout cas particulier face à des animaux morts. Et la deuxième vidéo que je vous ai mise, c'est un peu la même chose sur des chimpanzés, où alors ils ont un comportement très différent. Notamment, c'est assez bizarre, ils ont un comportement particulièrement agressif envers le corps de l'animal qui est mort. Peut-être que c'est pour tester s'il réagit, et s'il ne réagit pas, c'est que, bah, y a quelque chose d'anormal. Mais en tout cas, voilà, on observe chez différents types d'animaux des comportements très particuliers dans des situations spécifiques, difficiles, et notamment la mort d'un de leurs compatriotes. Voilà, alors du coup, jusqu'à maintenant, bah, on s'est focalisé sur des individus en particulier, que ce soit pour définir de façon absolue, est-ce que l'intelligence est une caractéristique d'un animal, est-ce que c'est par comparaison avec d'autres animaux qu'on peut définir l'intelligence. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'en fait c'est une capacité individuelle ou est-ce que plutôt sociétale ou les deux. Par exemple, bah, on a discuté tout à l'heure des colonies de fourmis, donc je vous ai mis un petit exemple ici. Donc, je pense que vous devez savoir que les fourmis sont capables de déposer ce qu'on appelle des phéromones, donc des petits messages dans l'environnement. Et grâce à ce système simple de communication, ben même si les individus sont potentiellement, on pense en tout cas aujourd'hui, avec des cerveaux tout petits et très câblés, puisqu'elles ont des rôles très très distincts les unes des autres, par exemple ouvrières ou soldats, etc. Et malgré ça, bah, voilà, malgré le fait que chaque individu est probablement câblé à faire, sait faire très peu de choses, la société entière des fourmis est capable de résoudre des problèmes très complexes. Donc voilà, est-ce que c'est ça la capacité, l'intelligence? Est-ce que c'est quelque chose de social ou d'individuel? Et puis bah, on retrouve cette idée de travailler en équipe, bah, en meute, en troupe de loups, de singes ou d'orques. Voilà. Ensuite, bon, pour l'instant, pareil, je vous ai dit, c'est très très guidé, cette tentative de définition, ou en tout cas de toucher du doigt ce que c'est que le concept d'intelligence. Maintenant, c'est que pour l'instant, je vous ai dit, on a essayé de définir ce que c'est que l'intelligence, comme c'était une propriété d'un élément, mais est-ce qu'en fait, ça ne serait pas nous, observateurs, qui, quand on regarde quelque chose, disons que cette chose est intelligente? Et si oui, du coup, si c'est quelque chose qui n'est pas propre, intrinsèque à l'objet, mais qui est en fait propre à l'observateur, bah, comme il y a plusieurs observateurs, qu'est-ce qui se passe si ces différents observateurs ne sont pas d'accord? Par exemple, si moi je dis qu'une abeille c'est intelligent, mais que vous tous dans la salle vous dites que c'est pas intelligent, bah, comment on fait pour se mettre d'accord? Donc la question c'est en fait, en gros, est-ce que c'est une propriété subjective, donc qui peut être proportionnellement propre à chacun d'entre nous des observateurs, ou est-ce que en fait c'est une propriété qui est objective et qu'on peut tester avec des critères particuliers? Et pour répondre enfin, en partie, essayer de répondre à cette question, il y a Turing. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Turing. Oui, pas mal d'entre vous lèvent la main. Donc, en fait, Alan Turing était donc on va dire, informaticien, enfin un précurseur. C'est grâce à lui qu'existe l'informatique. Et c'était quelqu'un de vraiment extrêmement enfin, incroyable, parce que ils n'avaient même pas encore créé l'ordinateur, qu'ils se posaient déjà des questions de savoir si un jour l'ordinateur pourrait être intelligent et quelles conséquences ça aurait sur notre société et comment est-ce qu'il pourrait faire pour être intelligent. Et normalement, et notamment, c'est lui qui a dit que potentiellement, plutôt que d'essayer d'avoir un développeur qui écrirait un code et qui rendrait la machine très intelligente, peut-être que ce qui serait très marrant comme approche, enfin en tout cas plus productif, ça serait d'inculquer les capacités à la machine d'apprendre comme un petit enfant, et que la machine d'elle-même, en apprenant des choses, deviendrait un jour, entre guillemets, intelligente. Donc ce qui est en fait les deux morceaux de l'intelligence artificielle qu'on verra plus tard. Et donc ce monsieur, Alan Turing, avait inventé un jeu de pensée, hein, mais qu'on peut faire pour de vrai, qu'il appelait le Imitation Game, mais que depuis on a nommé test de Turing, puisque c'était lui l'inventeur. C'était en gros, bah, là on a un petit setup ici où en fait on a deux cases, on va dire, comme des box de vote par exemple. Donc on a derrière soit un ordinateur, soit un humain. Et puis on a C qui est un observateur, et l'observateur C, le but, ça va être, il peut poser des questions, donc à travers, en les écrivant sur une feuille, en les passant par un petit trou à la chose ou à la personne qui est derrière dans le box de vote, et en fonction des réponses, son but à la fin, c'est de pouvoir déterminer si il a parlé à une machine ou il a parlé à un être humain. Et l'idée de Alan Turing, c'est de dire, si C, l'observateur, n'est pas capable de faire la différence entre A et B, du coup, et qu'on considère que B, qui est un être humain, est intelligent, alors c'est que A aussi est intelligent. Donc si je suis pas capable de faire la différence entre deux choses et qu'une de ces deux choses, je la qualifie d'intelligente, alors je suis censé pouvoir dire que la première chose était elle aussi intelligente. Ce à quoi a rétorqué, donc je crois que c'était philosophe, John Searle, en 80, par une autre expérience de pensée qu'on appelle la chambre chinoise, qui est caractérisée ici dans l'image. L'idée, c'est de dire, on imagine une boîte qui est fermée, dont on ne voit pas l'intérieur. Alors là, on vous le met parce que pour l'expliquer, mais en gros, on a un petit chinois là qui rentre à gauche, qui pose une question, donc il écrit une question sur un papier et il la fait tomber dans la petite boîte en dessous de l'input, de l'entrée de la boîte. Et on imagine qu'à l'intérieur, il y a par exemple un Américain, donc quelqu'un qui ne comprend rien au chinois, qui va prendre cette question, qui va regarder un peu les idéogrammes, et il a un espèce de livre magique dans lequel il a toutes les réponses. Donc pour chaque idéogramme qu'il reçoit en input, il y a la réponse qu'il doit répondre. Et donc du coup, il a une petite boîte avec toutes les réponses, il sélectionne la bonne réponse et il la fait glisser dans le tube de sortie, output. Et donc, en sortie, le petit chinois qui est à droite peut avoir sa réponse. Donc, ce que dit John Searle, c'est que en gros, ce système-là pourrait répondre à l'imitation game, le test de Turing qui était proposé par Turing, mais en fait, l'être humain qui est dedans serait complètement con, entre guillemets, donc la boîte elle-même serait complètement con, puisqu'il n'aurait que fait associer des symboles en entrée à un symbole de sortie. Du coup, voilà, évidemment, ces discussions peuvent aller très loin. Notamment, une remarque qui a été faite, c'est que la limite de cette chambre chinoise, c'est que si par exemple le petit chinois qui est à gauche rentre une photo en disant dis-moi qui est-ce qui est dans cette photo, et qui c'est une photo qu'il vient de prendre, forcément le bouquin n'aura pas toutes les réponses. Donc en fait, cette expérience de pensée ne restera jamais qu'une expérience de pensée, puisqu'il n'est pas possible d'écrire un livre qui aurait toutes les réponses à tout. Et donc, un tel système avec une boîte noire, avec un être humain qui comprendrait rien à rien, mais qui ferait que répondre à un livre, ne peut pas exister parce que le livre lui-même ne peut pas exister. Enfin bref, je vous laisse voir, mais ce sont deux expériences de pensée très intéressantes pour essayer de caractériser, donc de tester de ce que c'est que l'intelligence et pour essayer de contredire ce test. Ensuite, voilà, pour en venir, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui est de Franz Deweis qui s'appelle Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Donc, c'est un éthologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le comportement des animaux, et lui, il a particulièrement travaillé sur les singes. Il parle de plein de choses extrêmement intéressantes, notamment comment on teste l'intelligence chez les animaux. Et comme vous l'avez dit, certains d'entre vous, dans le test de Turing où on a un observateur C, comme l'image du slide précédent, une des grandes questions, c'est que cette définition de l'intelligence, du coup, finalement, elle repose beaucoup dans l'observateur, de comment il va poser ses questions, qui il est, comment il est habillé, etc. Et donc du coup, ça, voilà, la question de l'observateur est très importante dans le test de Turing. Et alors un autre argument, voilà, juste pour résumer, moi ce que j'ai beaucoup aimé, si on prend en filigrane ce qu'il dit dedans, c'est qu'en gros, l'être humain, à chaque fois qu'il a défini l'intelligence, d'une certaine façon, il a trouvé un animal qui était plus fort que lui selon ce critère, donc il a changé la définition, parce que grosso modo, l'être humain veut toujours être au top, et il est persuadé, convaincu qu'il est le plus intelligent de tous les êtres vivants. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu rapidement, alors c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en fait des différentes définitions qui ont été données de l'intelligence et comment elles étaient contredites. Donc notamment, vous savez, à l'époque des colonisateurs dans les différents pays, notamment en Afrique, ils allaient, ils mesuraient la taille du crâne, la taille du nez, etc., pour montrer que les blancs étaient plus intelligents que les noirs. Et une des caractéristiques à l'époque de l'intelligence, c'était la taille du cerveau. Et voilà, le cerveau d'un être humain fait 1 kilo, le cerveau d'un éléphant fait 4 kilos. Au final, du coup, est-ce que l'éléphant est 4 fois plus intelligent que l'être humain? Bah, je sais pas, mais en tout cas, du coup, bah, l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la définition. Et bon, il y a eu d'autres définitions disant, par exemple, que bah, l'être humain, lui, il est capable de communiquer, il a un langage, etc. Il a une culture qui se transmet d'enfant, parent à enfant, etc. Et ça, bah, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a d'autres animaux, comme les abeilles, qui ont un langage. Alors, enfin, de ce qu'on comprend de ce langage, il a l'air plus simple que le langage humain, mais enfin, il arrive quand même à communiquer des choses suffisantes pour que les abeilles bah, puissent survivre et puissent trouver de la nourriture. Bah, on sait que chez les oiseaux, il y a des langages très compliqués. Là, par exemple, je vous ai mis le livre de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Mathevon, qui est, alors petit tips, non seulement il est français, mais en plus il est stéphanois. Donc, je vous invite à lire son livre où il explique que les animaux parlent, sachant les écouter. Très très intéressant, où il explique justement toute la richesse du langage des oiseaux, qu'on commence à peine à comprendre. Enfin, la richesse, hein, parce que le langage lui-même, on n'est pas encore prêt de le comprendre. Mais il y a une chose d'ailleurs très intéressante qu'il évoque là-dedans, donc c'est la définition entre la différence entre quand on. Alors je ne sais plus comment sont les termes, mais par exemple quand on signale, donc quelque chose qui serait un message qui est envoyé par un animal vers un autre, par exemple un cri d'alerte. Qu'un animal pourrait entendre, et à force de voir qu'à chaque fois que ce cri d'alerte est émis, il y a un ennemi qui arrive ou un lion qui arrive, et bah, du coup, l'animal va commencer à associer bah, qu'il y a un danger, mais du coup, il n'y a pas d'intention en fait dans la réception du message, c'est juste des signaux et une association que le récepteur fait avec le fait que signal égale danger qui arrive, mais il n'y a pas forcément d'intention dans l'émission de l'émetteur, et il n'y a pas forcément de compréhension dans la réception du récepteur. Et puis, donc, l'autre terminologie qui définit, je crois que c'est justement la communication, où vraiment les interlocuteurs ont vraiment l'intention d'échanger des messages. Donc, enfin, c'est très intéressant et à discuter. Et il montre des expériences qui permettent de prouver que chez certains animaux, il y a vraiment une communication, qu'il y a vraiment une intention de l'émetteur de transmettre un message au récepteur, et vraiment une intention du récepteur de comprendre ce message. Et puis nous, on l'a montré tout à l'heure, bah, tout ce qui est culture, on l'a montré qu'il y avait chez les poissons, chez enfin, voilà, chez les orques, etc. Donc bon, ce n'est pas une caractéristique propre à l'être humain. Ensuite, pendant très longtemps, on a pensé que l'être humain était le seul animal qui était capable d'utiliser des outils. Et puis en fait, on a montré que bah, il y a plein de grands singes qui sont capables de le faire. On a montré qu'il y a plein d'oiseaux qui sont capables de le faire. Je vous parlais des cacatoès, je vous parlais des corbeaux, etc. Donc voilà, du coup, c'est encore une fois pas le propre de l'être humain. On a parlé des émotions aussi, je vous ai montré que les éléphants et les singes avaient, en tout cas, peu associé à des émotions. On a parlé de l'humour, du jeu, de la créativité, tout ça. Tout ce qui est jeu, on sait qu'en fait, bah, tous les bébés, je vous ai mis un petit symbole de bébé parce que quasiment tous les bébés animaux utilisent le jeu comme un moyen d'apprendre sans danger dans un contexte sécurisé. D'apprendre des comportements, par exemple de chasse pour les bébés lions ou chats ou n'importe quoi. Et puis, bah, l'humour, on a observé des comportements, par exemple chez des dauphins, comportements où ils ont l'air de se raconter des blagues ou de faire des trucs rigolos les uns aux autres. Voilà, alors tout ça pour dire que bah, définir le concept d'intelligence, c'est pas si simple que ça. À chaque fois qu'on a trouvé des définitions, on a trouvé des animaux qui étaient mieux que l'être humain, et donc on a changé les définitions. Et il y a un concept, en tout cas, que moi j'aime beaucoup, qui vient de, je crois que c'est John von Exclusion, qui a été repris par Conrad Lorenz. Vous savez, c'est ce gars qui avait élevé des oies, donc avait fait naître des oies, et qui avait compris que les oies, que la première chose qu'elles voient quand elles sortent de l'œuf, elles l'associent à leurs parents, et elles le suivent partout, et elles se font nourrir par lui. Et donc il avait élevé des oies, il s'était fait passer pour le papa d'oies, et il les emmenait en migration, etc. Et il a repris un concept, le concept de Umwelt, que j'aime beaucoup, qui est de dire que, en fait, l'intelligence dépend du corps dans lequel elle est intégrée. Alors, pour vous donner un exemple simple, qui est celui qui est donné dans le livre de France Deval, c'est par exemple quand on veut tester typiquement l'utilisation des outils chez les singes, par exemple chez les chimpanzés, ce qu'on fait, c'est qu'on attache un régime de banane en haut au plafond, on laisse traîner les bâtons dans la cage, et puis on observe les singes, et généralement, ce qui se passe, bah, les singes, ils attrapent le bâton, ils tapent sur le régime de banane, il finit par tomber par terre, et puis ils mangent les bananes, ils sont contents. Et youpi, on dit les singes, les chimpanzés sont intelligents. Et on a fait la même chose avec des éléphants. Donc on a mis un régime de banane en hauteur. On a posé des bâtons dans la salle et les éléphants n'attrapaient pas les bâtons et ne tapaient pas dessus. Donc on a dit, bah, les éléphants ne savent pas utiliser les outils. Ouh là là, bouh, ils sont pas intelligents. Et en fait, des gens qui connaissaient bien les éléphants et qui ont beaucoup vécu avec les éléphants avaient quand même un peu une intuition de dire que l'éléphant, c'est quand même pas si con que ça. Et donc, on s'est rendu compte rapidement qu'en fait, eux, enfin, c'est eux qui ont dit, que connaissant bien les éléphants, que en fait, un éléphant, c'est très myope. Donc, du coup, il se base beaucoup sur ce qu'il sent avec sa trompe. Mais il se trouve que sa trompe, c'est aussi son moyen de préhension. Donc, en fait, s'il attrape un bâton par terre, alors déjà, c'est pas simple quand on a une trompe, puisqu'on n'a que deux doigts, entre guillemets, quand il y a deux parties de la trompe qui peuvent se faire une pince. Donc déjà attraper un bâton au sol, c'est pas simple, mais c'est surtout que quand on y arrive, on attrape le bâton et on se ferme les narines. Du coup, on n'est plus capable de savoir où sont les bananes, puisque on sent plus avec le nez et qu'on ne voit rien. Donc du coup, en fait, un bâton n'est pas un outil adapté à un éléphant. Et en fait, si en fait ce qu'on fait, c'est qu'on met le régime de bananes en haut dans la cage, on met quelques cubes dans la cage, et l'éléphant, il arrive à prendre les cubes, les entasser les uns sur les autres, à monter dessus et à attraper le régime de bananes. Donc en fait, des cubes. Enfin, un éléphant sait parfaitement utiliser des outils, mais il faut que ces outils soient adaptés à la forme de son corps. Le umwelt, c'est ça, c'est de dire en fait, notre cerveau, notre intelligence, elle se crée, elle progresse au fur et à mesure de nos expériences dans le monde, et en fait, en fonction des capteurs qu'on a, les yeux, ou la bouche, le nez, etc., et des actuateurs, donc des moyens qu'on a d'agir sur nos mains, nos pieds, etc., eh ben, on ne va pas développer notre cerveau de la même façon. Et donc, du coup, deux animaux qui ont des corps très différents vont développer des intelligences très différentes. Et même ça peut aller très, très loin, puisque on voit par exemple, on serait, par exemple, pour les yeux, le nombre de bâtonnets ou de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, pour détecter les couleurs, sont très différents d'une personne à l'autre. Et que donc, potentiellement, aujourd'hui, nous, en tant qu'être humain, avec nos langages très évolués, on arrive à se dire, tiens, passe-moi la clé qui est bleue, par exemple. Et la personne d'en face va comprendre, mais en fait, il y a par exemple des personnes qui sont, comment on appelle ça, qui ne voient pas les couleurs les mêmes que les autres, ou des choses comme ça. Et donc en fait, on ne sait pas, on ne saura jamais, et enfin on est presque sûr, en tout cas scientifiquement, du fait du nombre de bâtonnets, etc., qu'il y a dans les yeux des personnes, que en fait, quand on parle du concept bleu, en fait, ce concept est très différent pour deux personnes, puisqu'ils n'ont pas les mêmes yeux. Donc, si je dois résumer un petit peu, tout ce qu'on a essayé de voir pour essayer de toucher du doigt ce que ça peut être que ce concept d'intelligence, on a vu que c'était un concept qui est assez difficile à définir. On a essayé de le définir de façon absolue, en essayant de voir si c'est une propriété même des objets qu'on observe. On a vu que c'était pas si simple que ça. Ensuite, on a essayé de le définir de façon relative et on s'est dit que c'est pas si simple de ça que comparer deux animaux, savoir est-ce que l'un est plus intelligent que l'autre, c'est pas si simple que ça. On a essayé de le tester, de voir si c'était une propriété objective ou subjective. On a proposé l'expérience de la chambre chinoise et le test de Turing. Et on a vu que l'un critique l'autre et l'autre critique l'un. Donc c'est pas non plus si simple que ça à observer de façon, enfin, tester de façon objective. Et puis on a fini par voir que, notamment chez les éthologues, les gens qui ont beaucoup étudié les animaux, on pense que, enfin voilà, de plus en plus, on touche sur le fait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et qu'elles sont notamment liées à la forme du corps de l'animal qui est censé être intelligent, notamment avec ce concept de umwelt. Et puis, alors on ne l'a pas vu là, mais par exemple avec le test de QI, vous savez que probablement il y a aussi plusieurs degrés d'intelligence, même au sein d'une même espèce qui est censée être intelligente, peut-être que deux individus ne sont pas forcément aussi intelligents l'un que l'autre. Quand bien même que ça veuille dire quelque chose. Tout ça pour dire qu'à la fin, finalement, c'est quoi l'intelligence? On n'a toujours pas défini. Alors, j'oserais pas aller jusqu'à dire qu'il y a des définitions de l'intelligence, parce que ça, on se refuse tous à le dire parce que c'est trop compliqué, mais il y a en tout cas deux vues différentes de ce que ça peut être l'intelligence. La première, c'est la vue individuelle, on va dire. En fait, si je prends juste un individu, un robot, n'importe quoi, je vais pouvoir dire s'il est intelligent ou pas, enfin, essayer de caractériser son intelligence, son niveau d'intelligence par rapport au type de problème qu'il résout. Donc résoudre des problèmes difficiles, ça serait, ou complexes, ça serait une caractéristique d'un individu intelligent. Le problème avec cette définition, c'est que à partir du moment où le problème est résolu, si on publie la façon de le résoudre, l'algorithme, on va dire, pour le résoudre, à ce moment-là, tout le monde peut le résoudre, donc il est plus difficile. Et du coup, est-ce qu'on doit arrêter de dire que la personne qui a résolu le problème est intelligente, ou est-ce que du coup on change la définition d'intelligence, quoi. Donc c'est une définition qui est mouvante, donc c'est assez compliqué de garder cette définition. Et puis on a vu aussi donc se poser la question de savoir si l'intelligence est une caractéristique individuelle ou une caractéristique sociale, par exemple avec les fourmis. Et donc il y a une vue évolutionniste, notamment celle de Darwin et de Dawkins, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie du gène égoïste, qui dit que en fait nos gènes, entre guillemets, nous contrôlent dans le sens où le seul but, entre guillemets, d'un être humain, c'est d'essayer de se reproduire pour que ces gènes perdurent pour la génération d'après. Donc en fait, le but de n'importe quel individu, c'est juste d'arriver à faire en sorte que la génération prochaine, enfin, ou d'une société, c'est de faire en sorte que cette société perdure et que donc du coup il y ait des générations futures. Comment on fait pour qu'il y ait des générations futures dans un monde qui change tout le temps? Eh bien, la clé de la survie, ça va être l'adaptation. Parce que si on est préprogrammé pour aller toujours, mettons une fourmi par exemple qui voudrait aller chercher de la nourriture, si son programme lui dit va toujours tout droit pendant 100 mètres puis tourne à gauche, bah, le jour où la goutte de sucre elle est à droite, la fourmi ne la trouvera pas, elle mourra et toute la colonie mourra. Donc il faut avoir une capacité de s'adapter aux conditions de l'environnement qui lui est changeant. Et comment est-ce qu'on s'adapte? Ben, en général, par l'apprentissage. En anglais, on dit learning. Donc, l'informatique, ça sera machine learning. C'est la clé de l'adaptation. Et ce qui est intéressant de voir, on en a discuté tout à l'heure. Donc, je demandais, est-ce que c'est une caractéristique sociale ou est-ce que c'est une caractéristique individuelle? Ben, en fait, ces deux, entre guillemets, vues, peuvent être vues à la fois d'un point de vue individuel ou d'un point de vue social. Parce que, ben, comme je disais, ça peut être une société entière qui résout un problème difficile ou juste un individu. Voilà, donc là, on a vu, essayer de toucher du doigt ce que c'était que le concept d'intelligence. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs façons d'essayer d'aborder le problème. Je vais essayer de vous les décrire, de vous montrer quelques exemples de chacune d'entre elles. Donc, le premier, ça s'attache plutôt à ce qu'on appelle l'IA symbolique, donc on va manipuler des symboles. Va s'attacher plutôt à résoudre l'approche de l'IA, la première vue, qui dit que être intelligent, c'est résoudre des problèmes complexes. Et donc, l'IA symbolique va s'attacher à essayer de représenter la connaissance humaine, parce que le but, c'est quand même de copier l'humain, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours dit l'être humain, c'est le top du top. Donc, le but pour être le top du top dans l'intelligence artificielle, ça serait d'être capable de faire ce que fait l'humain. Donc, être capable de représenter la connaissance humaine, être capable de mener des raisonnements par rapport à ces connaissances. Comme l'être humain. Et puis, il y a une approche plutôt numérique, le machine learning, qui, elle, prend l'autre point de vue, le point de vue plutôt darwiniste, où le but, c'est de s'adapter, d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, on observe, on apprend comme un petit enfant, on observe des situations, des données, on collecte des données, on apprend des situations, et puis on essaye de généraliser à partir de ces situations pour pouvoir se comporter dans des situations qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont relativement similaires. Donc ça, c'est les deux approches. Et puis, il y en a une autre, c'est plutôt l'IA distribuée, donc ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. C'est un peu comme la colonie de fourmis, où là, l'idée, c'est d'avoir des individus ou des entités, en tout cas, qui ne sont pas forcément très intelligentes, mais en mettant plein et en les mélangeant et en interagir de façon plus ou moins libre, il y a des comportements émergents qui vont apparaître et qui seront, entre guillemets, intelligents. Donc, le premier point de vue... Le premier point de vue qu'on va voir, c'est l'intelligence artificielle symbolique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de manipuler des symboles, comme je le disais. On va voir des exemples tout à l'heure. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais prendre un exemple des systèmes experts. Donc, c'est les systèmes les plus simples qui ont été inventés. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des logiques mathématiques et de faire de la déduction. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la plus simple des logiques, c'est ce qu'on appelle la logique propositionnelle, qui s'appuie sur des propositions. En l'occurrence, il y a deux types de propositions. La première, c'est des règles, de dire par exemple ce qu'il y a écrit ici, là. Donc, il pleut, double flèche, prendre parapluie, point. Ça veut dire, si il pleut, alors je prends mon parapluie, point. Ce point, ça veut dire que c'est quelque chose qui est acté, qui existe. Et puis il y a des faits, par exemple le fait qu'il pleut. Donc il pleut point, ça veut dire oui, là il pleut maintenant, c'est vrai. Et donc c'est une logique propositionnelle, donc c'est un peu issu des mathématiques, mais aussi de l'informatique, donc c'est des choses binaires, c'est soit vrai, soit faux. Et l'idée, c'est de dire, quand j'ai un système comme ça, avec une règle qui dit s'il pleut, je prends mon parapluie, et un fait qui dit il pleut, si je mène un raisonnement, donc de la déduction logique, donc la déduction ça veut dire aller de général vers le particulier, donc là en l'occurrence Je prends des règles générales et un fait général et j'essaye d'en déduire un autre fait particulier qui est qu'en l'occurrence, bah, que si il pleut et que quand il pleut, je dois prendre mon parapluie, bah, alors je dois prendre mon parapluie là maintenant tout de suite. Alors du coup, bah, ces logiques-là, elles sont très très limitées hein, parce qu'elles sont binaires, parce que notamment elles ne permettent pas de décrire des caractéristiques sur les objets. Par exemple, si je veux dire que bah, je sais pas, je veux différencier un chien d'un chat. Ben, si j'ai un objet que ben, j'appelle C1 ici, et si je peux arriver à exprimer qu'il a des oreilles pointues et un museau court, alors ça sera plutôt un chat, et s'il a des oreilles rondes et un museau long, alors ça sera plutôt un chien. Donc pour ça, on a dû inventer un autre type de logique qui s'appelle la logique des prédicats. Et donc un prédicat, c'est comme A a des oreilles pointues, c'est une sorte de fonction qu'on peut appliquer à notre objet et qui va nous renvoyer vrai ou faux, puisqu'on est toujours dans la logique des vrais et des faux. Donc je passe les détails, mais voilà, bon bref. C'est des systèmes assez simples, donc des systèmes qui existaient notamment dans les années 60-70, et ça a été dès le début utilisé notamment dans le médical. Bah, par exemple, on sait que les médecins, bah, souvent, ils ont toute une liste de symptômes, et en fonction des symptômes, ils peuvent plus ou moins vous dire quelle maladie vous avez, et en fonction de la maladie que vous avez, vous dire quel médicament prendre. Donc il y a des gens qui ont essayé de discuter avec des médecins, de leur faire cracher, de leur presser le cerveau, là, pour arriver à leur faire cracher les règles. Qui permettrait de dire bah, que quand il y a tel symptôme et tel symptôme, c'est telle maladie, et que si c'est telle maladie, il faut prendre tel médicament. Et donc, ils ont créé des systèmes comme Mycine, Dendral, ou The Internist, ou Caduceus, qui essayaient de reproduire en fait le comportement, le raisonnement d'un médecin avec des règles comme ça. Et ce système est aussi revenu autour des années 2000 dans plein de systèmes comme SAP, ou IBM, ou Oracle, donc des grosses entreprises qui développent des systèmes pour le business. Pour les règles et par exemple pour les finances ou des choses comme ça, et dans lequel on peut utiliser ce genre de système de règles pour faire des déductions. Et c'est utilisé bah, notamment dans le système de la finance. Bah, vous connaissez certainement les systèmes de scoring quand vous voulez prendre un crédit dans une banque, par exemple pour acheter un bien immobilier, bah, ça s'appuie souvent sur des systèmes de règles comme ça, qui à la fin déduisent est-ce qu'on vous donne le crédit ou pas. Dans l'industrie, ça a été utilisé pour le diagnostic de panne, et puis dans le juridique, ça a été tenté dès le début, puisque les lois, normalement, c'est des choses assez carrées, avec des termes très précis, etc. Il y a des gens qui ont essayé de traduire les lois, bah, par exemple, si tu voles une pizza, alors il y a entre 1 et 6 mois de prison, si tu voles blablabla, il y a ça, si c'est la récidive, alors il faut rajouter 3 mois, enfin bon, bref. Il y a des règles comme ça, les lois, c'est un peu des règles comme ça, et ils ont essayé d'exprimer les lois sous forme de règles et pour pouvoir déduire. Donc, quand un nouveau prévenu se présente, on décrit quel a été le comportement du prévenu et on essaye d'en déduire la peine qu'il doit recevoir. Alors, vous vous doutez bien qu'en fait, même si c'est très carré dans la loi et que chaque mot est très précis, c'est pas si simple que ça à écrire sous forme de règles, et donc, du coup, ça marchait pas très très. Ensuite, voilà, je vous ai dit, donc, bah, les logiques, elles étaient assez limitées, il y a eu plein d'autres types de logiques qui sont apparues, donc notamment les logiques modales où on rajoute des modificateurs sur les opérateurs. Alors bon, bref, je passe les détails, mais en gros il y a des logiques qu'on appelle épistémiques qui essaient d'exprimer les savoirs. Par exemple, si j'écris CAI il pleut, ça veut dire que l'agent AI sait qu'il pleut. Il y a eu les logiques doxastiques, pardon, qui essaient d'exprimer des croyances, donc ce sont des choses qui sont pas forcément vraies, mais qu'en tout cas l'agent en l'occurrence croit vrai. Donc, par exemple, si j'écris BAI, il pleut, ça veut dire que l'agent AI croit qu'il pleut. Ce qui ne veut pas la même chose que de dire qu'il pleut. Il y a eu des logiques déontiques pour exprimer des droits. Par exemple, il est interdit de pleuvoir ou il est obligatoire de pleuvoir. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, on pourrait être obligatoire qu'un agent fasse une certaine action ou interdit qu'un agent fasse une certaine action. Il y a eu des logiques temporelles parce que ce n'est pas la même chose de dire qu'il pleut maintenant. Qu'il a toujours là, le petit carré, c'est-à-dire qu'il a toujours plu, et le petit losange, ça veut dire il y a un moment dans le futur où il a fait un moment dans le passé où il a plu. Et puis il y a des logiques, comme je vous ai dit, ces logiques-là, elles ne travaillent qu'avec des faits binaires, donc soit ils sont vrais, soit ils sont faux. Mais par exemple, le fait de pleuvoir, c'est pas forcément vrai. Des fois, il y a deux trois gouttes. Alors, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut pas? Alors oui, il pleut, mais est-ce qu'il pleut beaucoup ou pas? Enfin bon, bref, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, il y a des gens, notamment des Français, qui ont inventé ce qu'on appelle la logique floue, où en fait, on est capable d'exprimer des choses qui ne sont pas juste vraies ou juste fausses. Je prends l'exemple ici, par exemple, si on a une règle qui dit que s'il fait chaud, alors il faut enlever son pull, eh ben, Je peux définir la notion de il fait chaud par une courbe mathématique comme celle qui est ici, en disant bah, par exemple entre 0 et 15 degrés, je considère qu'il fait froid, qu'au-delà de 25 degrés, il fait chaud, mais entre 15 et 25 degrés, bah, j'ai une courbe comme ça qui me donne en fait la fonction de vérité. Donc par exemple, à 20 degrés, il fait moitié chaud, moitié froid, quoi. On n'est pas encore bien décidé. Et donc du coup, à partir de là, bah, si je définis différents opérateurs comme ça, enfin, si je redéfinis tous mes opérateurs comme la flèche, comme la combinaison des choses, eh ben, je peux après décider, bah, par exemple, que si bah, il fait chaud, il fait 20 degrés actuellement, donc il fait 50% entre guillemets, il fait chaud à 0,5, donc c'est moitié vrai, moitié faux, eh ben, enlever mon pull, je le ferai à moitié vrai, à moitié faux. Le problème, donc avec bah, ces logiques, tous ces systèmes logiques, bah, vous avez vu déjà, il y en a plein, il y a plein de conditions différentes. Et en plus, là, j'ai même pas encore essayé de vous parler de quand on essaie de mixer tous ces types de logiques. Mais en tout cas, la première chose, c'est que bah, pour arriver à écrire, comme je vous disais par exemple pour la loi, quand on a un texte écrit en français ou en anglais et qu'on doit le transformer en des règles, c'est pas si simple que ça. En plus, très souvent, donc dans la loi, c'est écrit dans des textes papier et tout, mais si par exemple je discute avec un médecin pour essayer de comprendre comment il prescrit ou des choses comme ça, bah, c'est pas écrit quelque part, c'est dans sa tête. Et arriver à discuter avec un médecin pour lui faire cracher des règles comme ça, parce que lui, elles sont pas écrites sous la forme de règles dans sa tête, c'est pas si simple que ça. Donc il faut déjà être capable de savoir ce qu'on sait, donc connaître ses propres connaissances et arriver à les exprimer. Et ça, c'est pas simple du tout. D'autre part, c'est compliqué à écrire. Alors, je vais vous mettre des trucs toutes bêtes. Par exemple, je fais l'hypothèse que s'il est interdit de x, alors il est interdit de x et y. Alors, je prends un truc tout bête. Par exemple, c'est un truc logique. Si, voilà, enfin, s'il est interdit de tuer, par exemple, bah, il est interdit de tuer et d'aller à la piscine. Voilà, ça paraît très logique. Enfin, vous me dites, quand je vais écrire ma logique, bah, je vais écrire ce genre de règles en disant que ça, c'est acté comme vrai. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais me retrouver à dire aussi que, alors, s'il est interdit de tuer, alors il est interdit de tuer et d'aller en prison. Donc, c'est cette même règle qui dit que si il est interdit de faire X, alors il est interdit de faire X et Y. Et ben, dans le cas de tuer et d'aller à la piscine, elle marche. Et dans le cas de tuer et d'aller en prison, elle marche pas. Donc, comment je peux faire pour avoir une règle qui, dans un cas, doit être valable et dans un autre cas, n'est pas valable? Et ben, c'est pas si simple que ça, c'est ce qu'on appelle des paradoxes, et il y en a plein. Alors, du coup, juste pour aller rapidement, comme ces logiques sont très très compliquées, etc., et qu'elles essayent de décrire vraiment le raisonnement, il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, si on allait plutôt vers des logiques de description, donc au lieu d'essayer de vraiment se focaliser sur le processus de pensée, de raisonnement de l'être humain, si on essayait plutôt de définir des logiques qui permettent de décrire le monde. Et après, à partir de ces descriptions du monde, il y a quelques règles simples qui puissent permettre de tirer des conclusions et d'ajouter des nouveaux faits dans notre monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ces logiques de description, elles considèrent trois choses. Il y a des individus qui sont des constantes, qui sont les objets. Par exemple, bah, le fait qu'on a Socrate. Donc, il y a un petit exemple en dessous d'un graphe, ce qu'on appelle un graphe de connaissance. Donc, dire par exemple, j'ai Socrate ici. Et j'ai des propriétés, qu'on appelle aussi des concepts ou des classes, qui sont ce qu'on appelle des prédicats. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est des fonctions qui renvoient vrai ou faux, qui sont unaires. Donc par exemple, ici, on a le tableau ici, The Death of Socrates, d'Épicte, donc met en scène Socrate. Donc ça, c'est un prédicat qui est vrai dans ce cas-là. On le représente par une flèche parce qu'il est vrai, tout ce qui est faux, on ne le représente pas. Et donc du coup, on peut écrire, ou ici, on peut écrire que Socrate est un homme en disant que homme de Socrate est vrai. Et puis il y a des relations qui sont donc des prédicats binaires. Donc cette fois-ci, on va prendre deux objets et on va créer une relation. Donc par exemple, des pictes dont je viens de vous parler. Et voilà. Et avec ça, juste avec des concepts, des propriétés de concepts et des relations entre mes concepts ou entre mes propriétés, je suis capable de décrire tout un tas de choses. Et c'est ce qu'on représente ici par un graphe de connaissances. Et alors après. Il y a tout un tas de propriétés qu'on peut définir sur les relations. Par exemple, est-ce que les relations sont transitives? Donc, elles peuvent, par exemple, la relation de parents. Donc, si X est le parent de Y qui est le parent de Z, alors X est le parent de Z. Il y a les relations inverses. Donc, si par exemple, X est le parent de Y, alors Y est l'enfant de X. Donc, parents et enfants sont des relations inverses. Il y a des notions de hiérarchie. Donc, par exemple, le fait d'être parent, le fait d'être père, c'est un peu plus spécifique que le fait d'être parent. Mais c'est un peu la même relation, mais spécialisée. Il y a des notions de cardinalité, enfin bon, bref, je vous en passe, mais en définissant tout ça, on est capable de représenter le monde et de raisonner sur le monde. Et ce genre de système a été utilisé par exemple par Watson, donc en 2011, c'est la machine qui a gagné au Jeopardy. Alors je sais pas si ça vous parle, Jeopardy, c'est un jeu télévisé où le but c'est on vous donne des réponses et il faut trouver la question qui va bien avec. Et donc là, on avait donc les deux meilleurs, à droite et à gauche, les deux meilleurs joueurs américains de l'époque qui ont joué face à cette machine, qui représentait le monde sous forme de graphes de connaissances comme je vous ai montré au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, bah, les deux meilleurs joueurs, ils ont gagné 21 600 et 24 000 $ respectivement, et la machine a gagné 77 000 $, donc elle les a complètement écrasés. Ensuite, donc il y a l'approche plutôt numérique du machine learning. Donc on va voir, en fait, là, il y a plein d'approches différentes, donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. C'est l'approche qui est plutôt basée sur le fait d'avoir des observations du monde et essayer d'en faire un modèle et essayer de généraliser et d'apprendre comme un petit enfant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, enfin, voilà, pour faire la comparaison avec la programmation traditionnelle en informatique, l'idée en programmation traditionnelle, on a des données, on a un programme qu'a écrit le développeur, on donne tout ça à l'ordinateur et il nous sort une sortie. Par exemple, bah, je peux écrire la fonction sinus, j'écris le code, le programme de la fonction sinus, je lui dis bah, que je veux pour pi sur 2, je donne tout ça à l'ordinateur, il va me ressortir la valeur en sortie de sinus pi sur 2. Et du coup, ça c'est complètement déterministe. À chaque fois que je donnerai toujours les mêmes données au même programme, j'aurai toujours la même sortie. Le but de l'intelligence artificielle, en tout cas du machine learning, ici, c'est d'essayer de faire l'inverse, c'est de dire, on va donner des données, tout un tas d'exemples à l'ordinateur, on va lui donner qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir comme sortie. Bah, par exemple, je sais pas, j'ai une photo et c'est un chien, j'ai une autre photo, c'est un chien, j'ai une autre photo, c'est un chien, j'ai une autre photo, c'est un chat, j'ai une dernière photo, c'est un chat, etc. Je lui donne plein d'exemples, je lui dis si c'est un chien ou un chat que je veux en sortie, et le but c'est qu'à la fin il me sorte une sorte de programme qui soit capable de déterminer si quand je lui donne une nouvelle photo qu'il n'a jamais vue, est-ce que c'est un chien ou un chat. Alors l'idée quand on dit programme ici, faut plus le voir comme une fonction en fait, c'est une fonction comme une fonction mathématique. Un exemple très simple, alors la première étape c'est de collecter des données. Un exemple très connu c'est les données de ces fleurs là qu'on appelle des iris. Et en fait, il y a trois, alors je ne sais pas si c'est espèce ou genre, peu importe, mais d'iris qui se ressemblent beaucoup, ces trois-là, iris versicolore, iris setosa et iris virginica. Voilà, à l'œil nu, moi je ne peux pas distinguer, des spécialistes arrivent à distinguer, mais moi pas. Mais est-ce qu'on pourrait faire un programme qui arrive à les distinguer? Bah, comment faire ça? Une première idée, alors du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a deux. La fleur est composée de deux entités différentes, une qu'on appelle le sépale et l'autre qu'on appelle le pétale. Et donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, c'est de dire, bah, en fait, si je mesure la taille du sépale, la longueur et la largeur du sépale, et la longueur et la largeur du pétale, et bah, peut-être que c'est caractéristique et que ça permettra de distinguer ces trois espèces. Donc, bah, la personne collecte des données, donc il coupe dans la nature, ou il mesure en tout cas dans la nature, des dizaines de fleurs iris versicolores, des dizaines d'iris setosa et des dizaines d'iris virginica. Il se fait un petit tableau comme ça, où pour chaque ligne, c'est une des fleurs qu'il a vues. Il met les mesures de la longueur, la largeur du sépale, la longueur, la largeur du pétale, et il nous dit quelle espèce c'est, enfin, quel genre espèce c'est, est-ce que c'est Setosa, Virginica ou Versicolor. Voilà, et ça nous fait un tableau. Donc voilà, on a collecté des données, on a représenté, donc on avait un monde là qui est donc, des fleurs, enfin, qui est un monde continu avec des couleurs, etc. Et on l'a réduit à un certain nombre de valeurs. Et à partir de ces valeurs, ce qu'on peut faire, bah, c'est les tracer. Alors là, j'en ai pris que, enfin, c'est du, il y a 1, 2, 3, 4 dimensions, plus là, ce qu'on appelle la classe, donc la valeur qu'on voudrait trouver à la fin. Et donc, du coup, je peux en tracer l'une par rapport à l'autre. Par exemple, si je dessine la longueur du sépale par rapport à la longueur du pétale, j'obtiens ça. Donc, première chose que je peux faire, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé, c'est je ne lui dis pas quelles sont les couleurs. Enfin, quel type de plante c'était au final, je lui dis, bah, voilà des données, débrouille-toi pour me les grouper les unes avec les autres. Bah, typiquement, bah, comment on va faire ça? On va donner une notion de distance à l'algorithme, et il va calculer la distance des points les uns par rapport aux autres, et puis il va finir par trouver que ces points-là, ils sont plus proches les uns des autres, que ceux-là qui sont plus proches les uns des autres. Il va me faire deux groupes. Malheureusement, enfin, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, les groupes qui va me former vont être très dépendants de la fonction de distance que je vais lui donner. Alors ça, je passe les détails pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais en gros, toute l'intelligence de ce système-là, en gros, elle repose sur le fait que je choisis la bonne distance au départ. Et comme vous le voyez, bon, pour l'instant, j'ai trouvé que deux groupes. On discutera après de comment faire mieux. Mais en tout cas, déjà, ces systèmes-là qui permettent de trouver des groupes d'éléments qui sont similaires, c'est le genre de choses qui peut être utilisé, par exemple, pour ce qu'on appelle la maintenance prédictive, c'est être capable de détecter des anomalies avant qu'il y ait par exemple, un moteur d'avion qui tombe en panne, parce que, par exemple, il y a des vibrations, quelque chose comme ça. Donc, si je mesure les vibrations dans le temps, les vibrations de quand le moteur se comporte bien vont avoir une certaine forme, les vibrations quand le moteur se comporte mal, une autre forme, un petit peu différente, et donc mon algorithme qui sépare en classe va être capable de trouver quand est-ce qu'il y a des problèmes. Ça sert aussi pour les finances, typiquement si on étudie vos mouvements de compte bancaire, on peut facilement trouver qu'un jour vous avez dépensé plus qu'autre chose, il y a une anomalie. Alors est-ce que cette anomalie c'est lié à une fraude ou pas? Ça, c'est une autre question, il faut étudier après, mais en tout cas, on peut trouver des comportements louches grâce à ce genre d'algorithme. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu, dans les systèmes de recommandation qu'on trouve, par exemple, si vous achetez sur Amazon ou n'importe quel site aujourd'hui, vous avez des systèmes de recommandation de produits similaires. Comment on fait? C'est pareil, les produits, on les caractérise avec certaines valeurs, et puis après, on cherche les produits qui fonctionnent d'une certaine distance, sont plus proches les uns des autres. Ou pour le marketing ciblé, on peut chercher aussi grouper les acheteurs les uns avec les autres. Donc par exemple, tous les gens qui auraient acheté tel type de film ou tel type de film, du coup, on va leur proposer les mêmes produits que ceux qui ont été achetés par d'autres acheteurs. La deuxième approche, c'est l'approche qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc on va superviser. Donc là, on va leur donner. Donc tout à l'heure, on avait juste les points, on les avait mis comme ça, mais cette fois-ci, je vais rajouter une information qui est la classe de la plante. Donc par exemple, en violet, c'est les iris setosa, en bleu, c'est les iris versicolores, et en jaune, les iris virginica. Et là, l'idée, je vais demander à mon système d'apprendre à séparer ces classes. Donc il sait cette fois-ci où sont les trois classes, et il va falloir les séparer. Donc, je peux choisir de les séparer, par exemple, par des lignes. Donc, je peux lui dire, vas-y, trouve-moi les lignes qui séparent le mieux ces classes-là. Et il peut me trouver les lignes, par exemple, cette ligne presque horizontale ici, qui permet de séparer les iris setosa de toutes les autres. Et puis, une ligne un peu en diagonale ici, qui sépare les points jaunes des points verts, qui seraient les versicolores et les virginica. Et comment on fait pour trouver ça? Alors, la première chose, c'est qu'il faut. Du coup, là, j'ai choisi des lignes, mais j'aurais pas. Choisir des zigzags, j'aurais pu choisir des ellipses, j'aurais pu choisir voilà. Donc il faut un espèce de modèle, c'est moi qui vais lui dire quel est le modèle qu'il va utiliser. Et puis il va falloir, du coup, c'est la forme du modèle que je vais choisir, c'est l'a priori, en tout cas, la connaissance, l'intelligence que je donne à mon modèle qui va dépendre de ça. Parce que là, par exemple, je choisis des lignes droites, mais on voit bien qu'en fait, il y a certains points verts qui se retrouvent au-dessus de la ligne, donc ils sont classés du mauvais côté. Donc en ayant pris un truc un peu plus alambiqué, qui faisait des zigzags, j'aurais peut-être eu un meilleur modèle, une meilleure séparation de mes données. Et ça, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de la déduction, quand on a des formules logiques qui permettent peut-être passer de formules logiques qui donnaient des règles générales, et en appliquant à des faits, on trouvait des nouveaux faits, et donc on faisait de la déduction. Ici, on est dans ce qu'on appelle l'induction. C'est j'ai des données brutes, ici mes petits points. Et je crée un modèle, donc mes fameuses lignes ici, qui me permettent de séparer l'espace en trois morceaux. Il y a le morceau en haut qui est plutôt jaune, le morceau au milieu qui est plutôt bleu et ou vert, et le morceau en bas qui est plutôt violet. Et du coup, maintenant, si on me donne une plante que j'ai jamais vue, mais qui par exemple aurait une sépale length de 7,5 et une pétale length de 3,5, donc qui arriverait ici en plein milieu à droite, et ben du coup, je sais qu'elle serait plutôt parmi les points verts. Elle sera classée parmi les points verts, donc du coup, ça serait probablement une iris versicolore. Donc, ça me permet de faire des inductions. Donc, passer de l'induction, c'est passer du particulier vers le général. Donc, je passe de données brutes vers un modèle, ici, une séparation de l'espace en trois morceaux. Et cette séparation de l'espace en trois morceaux me permet de faire des prédictions, donc de s'appliquer dans des cas que j'ai jamais vus. Donc, quand on reparle tout à l'heure, on parlait des fourmis ou des choses comme ça. Si par exemple la nourriture elle est plus là où je l'attendais, et je suis capable de m'adapter parce que je suis capable d'agir dans des situations que j'ai jamais vues. C'est ça le principe de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Alors du coup, c'est des exemples d'utilisation de ça. Typiquement, il y a ce qu'on appelle le churn, donc c'est les désabonnements de clients. Donc on a par exemple les clients de téléphonie, les gens changent beaucoup d'abonnements téléphoniques, en tout cas les jeunes. Et donc du coup, ben, ce qu'on peut, c'est avoir toute une liste de gens, de combien de temps ils sont restés, est-ce quel âge ils avaient, etc. Et on peut en déduire des catégories de clients et de prédire quand est-ce qu'un client va se désabonner ou pas, pour essayer par exemple de lui proposer une offre un peu moins chère juste avant qu'il se désabonne. Ça peut être utilisé encore pour le risque de crédit, donc on vous demande de faire un crédit, on peut l'utiliser pour essayer de calculer le temps avant que vous vous désabonniez, enfin, le temps avant que vous ne payez pas votre crédit pour voir s'il est plus petit ou plus grand que la durée du crédit que vous prenez. Dans la santé, ça peut être utilisé pour la détection des cancers, par exemple. Donc là, c'est sur des images. On prend des tas et des tas d'images d'œil avec des cancers ou pas. Et puis, on est capable de. La machine, certaines machines sont capables de détecter mieux que les meilleurs médecins si la personne a un cancer ou pas. Et puis, voilà, je vous ai mis un petit exemple à côté de morceaux de métal avec des lettres. Et ça, c'est typiquement, par exemple, dans les adresses à la poste aujourd'hui, plus personne, quand vous postez un courrier vers quelqu'un, il y a tellement de courriers que heureusement, ce n'est pas des personnes qui font ça. C'est des machines qui décryptent votre écriture, votre adresse et qui orientent automatiquement les courriers vers les bonnes destinations. C'est aussi ce qui est lu dans les machines là que vous voyez, notamment, je crois que c'est à Paris, où ils ont des véhicules de la mairie, là, des gens qui circulent avec des caméras qui prennent des photos et quand la personne n'a pas payé le parking, vont automatiquement décrypter la plaque d'immatriculation et envoyer une amende au propriétaire. Une autre approche complètement différente de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc là, l'analogie, en fait, si on s'inspire du monde réel, c'est de se dire, typiquement dans la vraie vie, si par exemple je touche mon four qui est brûlant, je vais me brûler, donc je vais vite retirer la main, et puis probablement les prochaines fois que je vais m'approcher d'un four, je ferai plus attention ou je ne m'approcherai pas d'un four. Ou pareil, donc ça pourrait des comportements dans la vraie vie, des comportements qui font mal ou qui sont néfastes, on essaie de les éviter. Et à l'inverse, si on veut par exemple provoquer chez un chien des comportements comme lever la patte ou autre, on va le dresser en lui donnant des bonus positifs, des choses positives pour qu'il répète ce comportement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement parce que si on veut qu'il répète quelque chose, on va lui donner des récompenses positives et si on veut qu'il arrête certains comportements, lui donner des récompenses négatives. Et donc ça, la mise en place en informatique, en gros, c'est on a simplifié les choses en disant on a un agent, donc ça peut être un petit robot, mais ça peut être un truc complètement logiciel, qui agit dans un environnement. Alors là, j'ai représenté l'environnement en haut comme séparé, mais en fait, l'agent, il est dans l'environnement. Et cet environnement, donc quand l'agent, il va faire des choses, il va agir, il va modifier l'environnement. Ces modifications, on va entre guillemets dire qu'elles sont observées. Du coup, elles vont amener un nouvel état de l'environnement que le robot peut observer. Et aussi, ce nouvel état de l'environnement, si par exemple c'est de recevoir une croquette ou de recevoir de l'électricité et d'être rechargé pour le robot, ça sera une récompense positive. Et ça peut être des récompenses négatives, si par exemple le robot se bloque une roue ou tombe dans l'escalier. Et donc du coup, voilà, on a un petit robot qui est autonome, qui peut décider de faire ce qu'il veut, d'agir dans le monde. Quand il agit dans le monde, ça modifie le monde. Et du coup, cela... Bah, il observe grâce à ses capteurs une modification du monde et en plus il reçoit une récompense. Et du coup, ça peut servir à des systèmes un peu simples comme celui que je vous ai mis ici, ultra simplifié, c'est de dire il y a un endroit ici, l'objectif, là, la case qui est en haut en vert, c'est l'endroit où il faudrait que le robot aille. Et puis en case rouge, ici, c'est un endroit qui est très dangereux pour le robot, où il ne faut pas qu'il puisse aller. Et la case grise, c'est un mur où le robot ne peut pas aller. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'on va faire des simulations, où le robot va se déplacer un petit peu aléatoirement, et puis il va finir par arriver des fois sur cette case où il a une grosse récompense. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que trouver un algorithme pour qu'il apprenne à aller vers cette récompense et à trouver la récompense. Donc la solution, on l'a à côté. En gros, l'idée, c'est de dire, l'algorithme marche plus ou moins dans le sens où il va rétro-propager la récompense. Donc en gros, quand on est dans la case qui est juste à côté du but, on est un petit peu moins vert, mais on est quand même très très vert, c'est par là qu'il faut aller. Quand on est encore une case un peu plus loin, on est encore un peu moins vert, mais c'est quand même par là qu'il faut aller, etc. Et puis quand c'est un danger, le danger, il va irradier un petit peu autour. de lui pour empêcher, enfin, pour essayer d'en gros de dire il faut pas aller par là, donc il faut essayer de repartir de cette zone qui est un peu dangereuse. Et donc du coup, on voit qu'on a des cases comme ça, orange et des cases vertes, et qu'au final, la stratégie la plus probable, enfin la meilleure pour arriver à avoir la récompense sans trop risquer d'aller vers le danger, c'est de monter puis d'aller à droite. C'est là qu'on n'aura que des récompenses pour arriver jusqu'à son but. Donc en gros, l'algorithme, il marche comme ça. Et l'idée, c'est que là, l'intelligence qu'on met entre guillemets dans le système pour arriver à faire ce qu'on veut au robot, entre guillemets, la première chose, c'est l'initialisation du système, de dire quelle récompense on va mettre, parce que par exemple, si je mets une très grosse récompense à la fin et puis quasiment des toutes petites récompenses sur les cases blanches, il va effectivement avoir envie de bouger sur les cases blanches pour arriver jusqu'à la case avec la grosse récompense. Par contre, si je mets des grosses récompenses négatives, des punitions sur les cases blanches, le robot il n'aura pas tellement envie de bouger et donc il n'ira jamais vers le but. Donc en fait, l'initialisation des valeurs de qu'est-ce que je mets comme récompense ou pas et où a une très grosse influence sur la solution que le robot va trouver à la fin pour se déplacer. Et du coup, pour illustrer cet apprentissage par renforcement, c'est utilisé à plein d'endroits. Le premier, c'est dans. Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux jeu de Go où Lee Sedol, donc le champion du monde, s'est fait battre par un algorithme. Cet algorithme s'appelait AlphaGo, puis une version après qui s'appelait AlphaZero, puis celle-là qui s'appelle MuZero, qui ont permis de battre l'auteur. Elle joue comme ça. AlphaGo, notamment, a été entraîné donc, sur des parties de très bons joueurs. Et puis après, on l'a laissé jouer avec lui-même, et à force de jouer avec lui-même, il a appris à gagner il gagnait des récompenses, il gagne des points, et plus il gagne de points, plus il s'améliore, et plus il joue avec l'adversaire lui-même qui est très bon, plus il s'améliore. C'est aussi utilisé dans ChatGPT, par exemple, enfin tous les chatbots que vous avez aujourd'hui, Gemini, Claude, etc., sont entraînés avec un apprentissage par renforcement, notamment pour les habituer à répondre à des questions de la manière la plus polie, etc., et la meilleure possible, et à éviter de répondre à certaines questions aussi pour protéger certaines mauvaises réponses. Il y a encore une autre approche qu'on appelle les algorithmes génétiques. Alors là, c'est une approche beaucoup plus darwinienne, donc qui s'appuie sur des populations. Donc là, l'idée, c'est vraiment de simuler un peu l'évolution selon Darwin et de dire, on va prendre une population d'individus. Alors, il faut arriver à caractériser les individus selon certaines caractéristiques, mais peu importe. En gros, l'algorithme, c'est de dire, j'ai une certaine population, j'évalue entre guillemets la valeur de ces différents individus. Pour savoir, c'est ce qu'on appelle une fonction de fitness. Donc, par exemple, ceux qui sont rouges, ils sont pas très très bons. Ceux qui sont verts, ils sont plutôt bons. Du coup, je sélectionne une partie d'entre eux. Donc, en général, je vais retenir une grosse partie de ceux qui sont très bons, mais je vais quand même garder quelques éléments un peu moins bons pour garder de la diversité, comme la biodiversité, qui est bonne pour la nature. Là, on va garder un petit peu de diversité parce qu'on ne sait jamais. C'est pas parce que quelqu'un est mauvais maintenant qu'il n'y a pas une petite caractéristique dans ses gènes qui ferait que mélangée à autre chose, elle serait très bonne. Ensuite, je génère de nouveaux descendants, donc par exemple par croisement, donc entre guillemets comme quand dans la vraie vie les animaux se reproduisent. Dans le système, on va croiser les différents éléments ou on va les faire muter, ce qui crée des nouveaux éléments dans la population. Et on retourne à la phase d'évaluation. Donc maintenant qu'on a une nouvelle population, on évalue, on cherche ceux qui sont bons ou pas, et puis on recommence. On sélectionne principalement ceux qui sont les meilleurs, mais en gardant certains qui ne sont pas forcément très bons. Puis on croise tous ces éléments pour faire des enfants et on continue comme ça jusqu'à un certain moment où on obtient des solutions à notre problème. Alors pour revenir un peu plus, un cas un peu plus concret, l'idée c'est que comment est-ce qu'on fait ça? Il faut être capable de représenter nos éléments sous des formes informatisables. Donc, par exemple ici un tableau de valeurs. Donc une valeur, on va appeler ça un gène, et tout un tableau de valeurs, on va appeler ça un chromosome. Et une population, ça va être un ensemble d'individus avec différentes valeurs pour ces différents gènes et chromosomes. Je pense par exemple, si j'essaie de trouver on va dire, le personnage, le meilleur personnage pour un jeu vidéo, bah, je peux définir les caractéristiques de dire que il faut qu'il ait une arme machin dans le bras gauche, une arme truc dans le bras, voilà. Donc je peux dire une valeur ici qui représente l'arme qu'il a dans le bras gauche, l'arme qu'il a dans le bras droit, sa taille, son nombre de points de magie, etc. Enfin bon, peu importe. Je mets un certain nombre de caractéristiques dans ces différentes cases. Ça me fait des individus avec des personnages, bah, suivant les caractéristiques que je mets, les personnages peuvent être très différents. J'ai une population, j'évalue, je regarde quels sont ceux qui sont bons ou pas, j'en garde qu'une certaine partie. Et puis après, quand je dois créer des descendants, j'ai deux possibilités les plus classiques. Le croisement, donc c'est je prends deux individus, donc deux tableaux de valeurs, je bloque un indice donné et j'échange la fin des deux tableaux. Donc ça va me faire deux nouveaux individus qu'ils n'existaient pas avant. Et puis il y a la partie mutation. Donc la partie mutation, c'est dire ben, il y a certaines des valeurs, je vais juste les changer comme ça, aléatoirement, comme dans la vraie vie, où il peut y avoir des mutations de nos gènes parce qu'il y a des radiations ou parce qu'il y a des produits chimiques qui nous ont fait muter. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ben, il y a plein d'applications aux algorithmes génétiques. Alors c'est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, ça a été la grande mode à une époque. Et il y a un exemple ici que vous voyez, qui est l'exemple que j'ai repris sur Wikipédia, de la forme d'une antenne. Donc c'est une antenne qui permet de capter au mieux les ondes qui passent, donc à une certaine fréquence, etc. Et pour déterminer la forme de cette antenne, ben, il y a eu plein d'essais avec des populations, donc des formes d'antennes différentes qui ont été essayées virtuellement, qui ont été croisées, etc. Et on est arrivé à cette forme qui est la forme optimale pour capter les ondes qui vont bien pour ce système. Ensuite, il y a la forme d'intelligence artificielle distribuée, notamment ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Donc là, comme je vous le disais, le but, c'est surtout d'avoir des entités pas forcément très intelligentes, mais entre guillemets grandes quantités, en interaction les unes avec les autres, qui, au final, vont faire émerger des comportements qu'on pourrait caractériser d'intelligents. C'est un peu, d'un point de vue purement informaticien et programmation, c'est un peu la poursuite de ce qu'on appelait la programmation objet, à l'époque, mais où cette fois-ci, ce qu'on va appeler les agents, donc c'est les objets un peu évolués, ils sont pas juste, ils agissent pas juste selon le programme qu'on leur a donné. On va supposer qu'ils sont actifs, proactifs, sociaux, autonomes et incarnés. Donc l'idée c'est actif, ça veut dire qu'ils vont réagir à des stimuli. Donc si on leur donne une input, ils vont réagir et faire quelque chose. Mais ils vont être aussi proactifs, ils vont être capables d'agir par eux-mêmes sans forcément recevoir de l'input. Ils vont être sociaux, ça veut dire qu'ils vont être capables d'échanger des messages avec d'autres agents, d'autres entités. Ils vont être autonomes, donc capables d'agir sans être contrôlés par une entité extérieure, entre guillemets, sans avoir de chef nécessairement. Et puis incarnés, c'est ce que je disais, ils sont dans un certain corps, ils ont une certaine capacité d'agir sur le monde et de recevoir les informations du monde. Et une approche qui est rigolote, bah, c'est un chercheur français qui l'a inventé, qui est de Grenoble, bah, c'est qu'on peut en fait concevoir ces systèmes multi-agents avec l'approche voyelle, AEIOU. L'idée, c'est que bah, on conçoit le système en réfléchissant à qu'est-ce qu'on va mettre comme agent, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'environnement, qu'est-ce qu'on va mettre comme interaction, donc comment on va concevoir les discussions que vont faire les différents agents, comment on va organiser le système, par exemple, est-ce qu'il va y avoir un chef, est-ce que ça va être une organisation plutôt plate, etc. Et puis on peut réfléchir aussi à la place de l'utilisateur dans le système, est-ce qu'il fait partie du système, est-ce qu'il envoie des messages au système ou est-ce qu'il n'existe pas dans le système. Enfin bon, ce qui est rigolo avec tout ça, c'est que on peut à la fois concevoir des systèmes avec cette approche, mais on peut aussi observer des systèmes, comme par exemple la colonie de fourmis, et se poser la question pour essayer de comprendre comment ils marchent, de c'est qui les agents, c'est quoi l'environnement, quelles sont les interactions, etc. Donc on peut caractériser de façon très précise un système à partir de ces quelques entités. Et ce qu'on disait, c'est que bah, au final, l'intelligence là-dedans, c'est une propriété émergente du système. Et ce qui est assez rigolo, c'est que bah, on a ce qu'on appelle la propriété holonique des systèmes multi-agents, c'est de dire qu'en fait, un système multi-agent d'un niveau peut être un agent pour un autre niveau. Donc pour essayer d'expliquer ça, parce que c'est un peu compliqué, c'est de dire si je prends l'humanité dans son entièreté, donc tous les humains sur Terre, en fait, on pourrait considérer qu'elle est composée en fait de sociétés humaines. Donc mes agents, ce seraient des sociétés humaines. Chacune de ces sociétés sont en interaction les unes avec les autres et le tout forme l'humanité. Mais maintenant, si je regarde une de ces sociétés humaines, en fait, je peux me dire qu'elle est composée d'agents qui sont les humains en interaction les uns avec les autres qui forment un tout qui est une société humaine. Mais si je regarde un humain maintenant, je peux me dire qu'en fait, un humain, c'est juste un tas d'organes qui sont en interaction les uns avec les autres et qui forment un tout qui est un humain, etc. Je peux continuer jusqu'aux atomes, etc. Mais donc c'est rigolo parce qu'on peut, à un niveau, considérer une société qui serait elle-même un agent à un niveau supérieur. Donc il y a une propriété de boîte comme ça, comme des boîtes de, comment on appelle ça, les poupées russes. Et voilà, et des exemples d'utilisation. Alors il y en a eu pas mal, par exemple, dans la santé, par exemple par Philips, où l'idée c'était comment est-ce qu'on alloue les patients dans un hôpital aux médecins. Et donc du coup, bah, l'idée c'est on simule des petits patients, on simule des petits médecins avec nos systèmes multi-agents, et on essaye de trouver l'allocation optimale des patients sur les médecins. Ça a été utilisé un peu pareil dans la gestion du trafic, donc comment est-ce qu'on alloue les véhicules et comment est-ce qu'on remplit les véhicules ou les avions pour optimiser les trafics aériens ou le trafic routier. Pareil, encore, c'est toujours des problèmes d'optimisation de trafic, mais cette fois-ci sur des paquets dans les réseaux, dans le système. Donc comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour que vos conversations téléphoniques circulent sur le réseau Internet, choses comme ça. On a un peu la même chose sur ce qu'on appelle la smart grid, donc la diffusion de l'énergie dans la grille d'énergie électrique. Donc voilà, par rapport, on a plein de fournisseurs, il y a des centrales nucléaires, il y a des barrages, il y a des centrales solaires, etc. Comment est-ce qu'on fait pour distribuer toute cette énergie jusqu'aux clients de façon optimale? Et puis dans l'industrie, il y a des systèmes aussi, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les usines tout automatiques aujourd'hui, mais des fois on a un appareil qui va mettre une couche de peinture, un autre appareil qui va assembler deux pièces, un autre appareil deux autres pièces, etc. Et donc du coup, il faut arriver à organiser tout ça de telle sorte que même si à un moment il y a une machine qui tombe en panne, l'usine continue à produire au maximum de ce qu'elle peut. Et donc du coup, pour se réorganiser comme ça, un système multi-agents, c'est avec des petits agents qui sont autonomes, etc. C'est bien parce que bah, s'il y a une moitié, enfin mettons peut-être pas la moitié, mais quelques agents qui tombent en panne ou qui n'existent plus, le système est capable de se réorganiser et s'adapter à la nouvelle situation. Voilà, donc bah, là on a fait le tour de tout ce qui était intelligence artificielle. Donc je vous ai montré. Donc l'intelligence artificielle, en gros, j'ai essayé de faire cette mind map pour vous rappeler un peu comment ça marche. On a l'IA symbolique, donc où on manipule des symboles, donc comme la logique, des prédicats, etc., avec des règles, etc. Et on fait de la déduction, donc on part de règles et de faits et on essaye de déduire de nouveaux faits. Ça se base beaucoup sur des logiques mathématiques. On a l'IA distribuée qu'on vient de voir, qui s'est un peu inspirée des colonies de fourmis, etc. Où l'idée, c'est que là, on a tout un tas d'entités qui sont en interaction et l'intelligence est une propriété émergente du système. Et puis on a l'IA qu'on a appelée numérique, le machine learning, qui repose sur un principe qui est l'induction, où là on va partir de tout un tas de données qu'on va observer, on va essayer d'en créer un modèle, de généraliser ces données, qui ce modèle va nous permettre de faire des prédictions pour des situations qu'on n'a jamais vues. Et donc il y a différentes façons de le faire. On l'a vu avec les algorithmes génétiques où on a vu cette forme d'antenne très particulière qu'on a pu générer grâce à des essais et des erreurs de plein de formes d'antennes différentes qu'on a croisées les unes avec les autres jusqu'à trouver la meilleure forme. On a vu l'apprentissage par renforcement où là on a un petit robot ou une entité qui est dans un environnement qui agit et qui en fonction de ses actions va recevoir des pénalités positives hein, ou des sanctions ou des pénalités ou des récompenses. En fonction de ses comportements et du coup va décider d'agir de façon à maximiser ses récompenses. Et puis on a vu les apprentissages supervisés et non supervisés où on a tout un tas de données avec par exemple les fleurs, des caractéristiques de ces fleurs et on va essayer d'apprendre à différencier les fleurs d'un certain type et les fleurs d'un autre type, par exemple avec des lignes, donc avec un modèle de séparation de ces données. Une petite parenthèse pour finir, donc en fait aujourd'hui on en a déjà discuté, la plupart des systèmes d'intelligence artificielle tels qu'on les voit sont capables de résoudre une tâche, par exemple détecter un cancer, alors parfois aussi bien qu'un être humain, parfois mieux, souvent moins bien, mais en tout cas c'est tout ça, ce sont des systèmes qu'on appelle d'intelligence artificielle faible, ou en tout cas moi je préfère le mot en anglais qui est étroite, de dire que ça résout un problème à peu près aussi bien qu'un être humain. Mais le but de beaucoup de gens, c'est arriver à faire l'intelligence artificielle qu'on appelle forte ou générale, où l'idée c'est d'être capable de faire à peu près autant de tâches que l'être humain, aussi bien qu'un être humain. Et puis il y a la fameuse intelligence artificielle supérieure, Ou alors il y a des gens qui en rêvent, il y a des gens qui en ont très peur, il y a des gens qui n'en veulent pas. Bon, bref, mais en tout cas, l'étape d'après, c'est l'intelligence artificielle supérieure, où là, ça serait une intelligence artificielle qui serait capable de faire mieux que l'être humain sur plus de tâches. Donc des exemples. Donc en fait, l'intelligence artificielle faible, elle existe depuis les années 80. Je vous ai parlé de la Poste, enfin de tous ces systèmes experts qui étaient capables d'essayer de reproduire le comportement d'un médecin pour deviner des maladies. Donc ça existe depuis longtemps. Donc faire une tâche aussi bien ou mieux qu'un être humain, ça existe depuis longtemps. L'intelligence artificielle forte, alors ça n'existe pas encore. Il y a des gens, donc les gens qui ont fait, la société qui a fait le chatbot ChatGPT, la société s'appelle OpenAI. Il y a le chef de la société qui a dit récemment que pour lui, d'après lui, l'intelligence artificielle forte est pour 2028. Alors après, il y a plein de gens qui ont critiqué en disant, bah oui, mais en fait, il nous fait peur en disant que ça va être pour 2028, donc les êtres humains seront remplaçables dans toutes les tâches, dans tous les travaux, dans tous les jobs du monde seront remplaçables par des intelligences artificielles en 2028. C'est parce qu'en fait, le système, la ChatGPT qu'il est en train de designer, c'est une intelligence artificielle, et donc en gros, les employés d'aujourd'hui, s'ils ne savent pas se servir de ces outils d'intelligence artificielle, ils seront perdus quand l'intelligence artificielle forte arrivera. Donc il faut absolument utiliser ces outils. Donc il y a des gens qui disent qu'il a dit ça parce que c'est un biais commercial pour faire vendre ces outils. Mais en tout cas, toujours est-il que enfin, en tout cas, ça s'approche. Il y a de plus en plus de gens qui disent que en fait, on pensait que ça ne serait pas possible d'avoir une IA générale, donc quelque chose qui est capable de faire aussi bien que l'humain sur plein de tâches, au moins autant que l'humain. Et ça, c'est possible que ça arrive. Et la grosse question, alors aujourd'hui, et qui serait intéressante de discuter, c'est que si ça arrivait en 2028 ou même en 2030, en tout cas des années où nous serions normalement nous tous qui sommes dans la salle ici encore là, la grosse question c'est de se dire si du jour au lendemain comme ça elles apparaissent, on est capable de remplacer tout le monde dans tous les boulots qui existent, notre société aujourd'hui vu qu'elle repose sur le fait que chacun d'entre nous travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter des choses, etc. et vivre. Ça va poser des très très grosses questions si on arrive à créer, enfin si en tout cas des sociétés créent ce genre, je sais même pas, même si c'est pas souhaitable ou si ce soit souhaitable, mais si des sociétés créent ça du jour au lendemain et distribuent ça du jour au lendemain, la société va prendre une grande claque. Donc l'idée c'est qu'il faudrait qu'on se prépare à ça dès aujourd'hui, puisque pour l'instant notre société elle n'est pas prête à ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle supérieure, alors on la voit beaucoup dans les. Alors ça, c'est encore du domaine de la fiction, hein, on la voit beaucoup, par exemple, dans AF9000, dans le film 2001 Odyssée de l'espace, on le voit dans Star Wars avec C-3PO et R2-D2, ou dans le film Her, où il y a quelqu'un qui tombe amoureux de son chatbot. Pour l'instant, c'est complètement du domaine de l'intelligence artificielle, mais contrairement à beaucoup de gens qui disent que ça n'existera jamais, que c'est pas possible, je vous inviterai quand même à vous méfier parce que, par exemple, je vous ai parlé des logiciels AlphaGo et AlphaZero qui permettaient de résoudre le jeu de Go, donc un problème très difficile, mais mieux que l'être humain. Et ce qui a été montré après, c'est qu'ils ont inventé donc AlphaGo. A été entraîné sur des parties de vrais êtres humains qu'il a appris à améliorer en jouant lui-même, mais ils ont montré après, en partant de Alpha Zero, c'est-à-dire en partant de rien, en donnant juste les règles du jeu au robot et en le laissant juste jouer contre lui-même au début complètement n'importe comment, il arrivait à améliorer et à être meilleur que AlphaGo au bout d'un certain temps. Et après, ils ont fait un nouveau logiciel qui s'appelle MuZero, où là, on ne donne même pas les règles du jeu, on donne 120 jeux. Différents, donc les échecs, le Go et tout un tas d'autres jeux d'ordinateur à ce logiciel MuZero, et il est capable de résoudre tous ces jeux mieux qu'un être humain. Donc il est capable, c'est un premier pas vers l'IA forte, donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, il ne faudrait pas croire que ce n'est pas possible. Et surtout, ce qui est très intriguant, c'est que ces logiciels-là, MuZero, etc., sont AlphaZero, AlphaGo, AlphaZero et MuZero sont des logiciels qui apprennent par renforcement, donc qui apprennent en jouant contre eux-mêmes. Donc à partir du moment où on aurait un de ces logiciels-là qui serait capable de faire aussi bien qu'un humain, on l'entraîne 5 minutes de plus et on a un truc qui est capable de faire deux fois mieux qu'un être humain. Donc voilà. Donc j'aurais tendance à dire, c'est inquiétant de se dire que peut-être un jour, aujourd'hui, on sera capable de faire des IA fortes, Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est de se dire que le jour où on a une IA forte, 5 minutes après, on a peut-être une IA supérieure. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis de façon un peu humoristique 2028 plus 1 minute, parce que vu comment fonctionne l'intelligence artificielle, enfin les mécanismes d'intelligence artificielle aujourd'hui, l'IA forte et l'IA supérieure ne sont pas si loin l'une de l'autre. Et l'IA forte, on n'est déjà pas très très loin, on a déjà des techniques pour faire ça. Maintenant, je ne peux pas vous quitter sans vous parler un peu des dangers des IA. Alors, je me suis appuyé sur les trois piliers du développement durable, l'économie, l'écologie, enfin, ou l'environnement et la société. Du coup, la première chose, évidemment, vous le savez, c'est que tous ces outils d'IA, notamment tous les outils d'IA génératifs qu'on voit aujourd'hui, ChatGPT et autres, sont des outils qui appartiennent aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc du coup, ce sont que des entreprises américaines. Alors il y a une société, vous avez peut-être entendu parler, Mistral, qui essaye de faire un logiciel de ce type-là, mais ils sont assez en retard. Et donc du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne peux pas m'avancer dans les années à venir, mais en tout cas, il n'est pas sûr, sûr qu'on n'est pas encore en train de se faire dépasser par les sociétés américaines. Ensuite, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité, parce que tous ces systèmes d'IA générative deviennent très très bons à écrire du texte, et donc du coup, tous les systèmes de phishing, de hameçonnage, les emails et les SMS que vous receviez jusqu'à maintenant et que vous détectiez facilement grâce aux erreurs de français, vont être plus difficiles à détecter. Il y a ce qu'on appelle l'arnaque au président, donc où on est capable de se faire passer, enfin un hacker peut se faire passer à partir d'une photo et d'un enregistrement de 3 secondes d'audio de la voix de quelqu'un, peut se faire passer pour cette personne, donc pour les fake news ou pour appeler la secrétaire d'une entreprise et lui dire de signer un contrat, ça va être de plus en plus facile à faire. Et puis, comme ces systèmes sont capables de générer du code informatique, ils sont capables de générer des virus qui n'ont jamais été vus et donc que les antivirus ne sont pas capables de détecter. Donc tout ça, ça va arriver. D'un point de vue environnement, je suppose que vous en avez entendu parler, hein, mais ne serait-ce que ChatGPT, par exemple, pour son entraînement, donc quand on lui a donné plein plein de textes pour qu'il apprenne à répondre à des questions ou à générer du texte, c'est l'équivalent de 205 vols Paris-New York en avion. Donc du coup une quantité d'énergie faramineuse rien que pour l'entraîner, hein, sans même qu'il ait encore été utilisé. Et à l'utilisation, ChatGPT consommerait l'équivalent de 175 000 foyers pour l'équivalent d'un mois, quoi. En fonction du nombre de personnes qui l'utilisent, ça peut varier, mais en tout cas, pour le mois de janvier 2023, il a consommé l'électricité de l'équivalent de 175 000 foyers. Ensuite, il y a d'autres problèmes, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est la partie machine learning notamment, il faut beaucoup de données. Donc pour entraîner tous ces algorithmes, il faut leur donner des données à manger. Et en l'occurrence, les entreprises qui entraînent ces modèles, elles ne se posent pas trop de questions, elles prennent tout ce qu'elles trouvent sur Internet et elles font complètement fi du fait que on n'a pas forcément le droit, c'est pas parce que quelque chose est sur Internet qu'on a le droit de l'utiliser. D'un autre côté, quand on utilise ces logiciels, comme ces logiciels ont été entraînés, par exemple, à lire, quand ils ont lu certains textes et qu'on leur demande de régénérer du texte, si par exemple ils ont lu beaucoup des textes qui disaient mon mot de passe c'est password 1, 2, 3, et quand on va leur demander de générer du texte, ils vont écrire mon mot de passe égale password 1, 2, 3 ou quelque chose du genre. Et donc du coup, toutes les données qu'on donne au logiciel aujourd'hui pour les utiliser, les entreprises s'en servent pour réentraîner ces modèles et les améliorer dans le futur. Et donc il y a des chances que dans les versions futures, il y ait des parties des données que vous leur avez données en les utilisant aujourd'hui qui vont ressortir plus tard. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Donc je vous ai mis différents articles ici, depuis les employés eux-mêmes, des enquêtes qui montrent que les employés sont très très inquiets de perdre leur job. Au milieu, l'Angleterre qui a l'air de dire que de toute façon ça ne changera pas grand-chose parce qu'il y aura autant de travaux qui seront perdus que gagnés. Et puis il y a des sites de développeurs informatiques et notamment l'ONU qui disent: Ah, mais c'est pas grave du tout, ces IA, c'est une innovation de plus, c'est pas bien grave, ça va créer plus d'emplois que ça ne va en détruire. En oubliant un peu au passage que tous les emplois qui sont détruits étaient demandaient certaines qualifications et que les nouveaux emplois qui sont créés demandent d'autres qualifications et qu'un être humain, ça change pas comme ça de qualification et que autant pour le marché, ça va pas être très difficile de changer de type d'emploi, autant pour les humains qui sont derrière, ça va être un peu compliqué. Ensuite, il y a toute la partie informationnelle. Vous avez déjà entendu parler très certainement de l'effet de la bulle informationnelle, c'est que ces outils, ils sont faits pour vous donner les informations qui sont le plus intéressantes pour vous. Donc, ils vous enferment dans une bulle qui vous empêche d'aller voir des informations qui seraient un peu différentes et qui pourtant pourraient être intéressantes de ne pas rater. Ensuite, il y a des histoires de manipulation de masse. Alors, je ne sais pas si, par exemple, sur Amazon, c'est connu que, y a des IA qui aujourd'hui sont entraînées pour aller mettre des recommandations positives sur certains produits et qui inondent le système de recommandation d'Amazon et qui font que les gens achètent des produits qui en fait sont de mauvaise qualité parce qu'il y a eu de la manipulation. Il y a eu la même chose d'un point de vue politique, vous avez dû en entendre parler, des manipulations sur Facebook qui ont essayé de faire en sorte que les gens votent pour la sortie, pour le Brexit en Angleterre ou pour Trump aux États-Unis. Vous avez entendu parler aussi récemment certainement de tout ce qui est le détournement d'attention, c'est la nouvelle économie de l'attention. C'est le fameux 5 minutes, je ne sais plus comment s'appelait là, le patron de Coca-Cola, où le but de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est ça, en fait. Sur TikTok, principalement, c'est reconnu que le but de enfin, l'une des utilisations de TikTok par le gouvernement chinois, c'est de détourner l'attention des gens des nouvelles qui les seraient fâcheuses pour eux, par exemple les Ouïghours. Et puis, dans le. L'éducation et la recherche. Donc, dans l'éducation, avec ChatGPT, vous avez dû entendre toutes ces news qui disent que les élèves trichent de plus en plus parce que ChatGPT est quasiment indétectable. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va devenir? Que vont devenir les générations futures si elles n'apprennent plus à travailler et qu'elles se reposent sur des systèmes qui sont pas terribles au final? Pour la recherche, on avait certainement déjà entendu parler de gens qui publiaient des faux articles. Par exemple, il y a des grands débats sur tout ce qui est les OGM ou tout ce qui est la pharmaceutique, etc. Où souvent, quand il y a quelque chose qui est un peu fâcheux, eh ben, en fait, ils font écrire des articles à des pseudo, des vrais ou pas scientifiques, des articles qui contredisent d'autres articles. Et puis, en fait, les gens étant noyés devant des articles qui disent un truc et d'autres articles qui disent l'inverse, au final, c'est la masse de données qui a été publiée. Qui va finalement faire foi et les gens finissent par faire confiance au fait que y a plus d'articles qui disent que A que B et donc ils vont plutôt croire A. Et avec ces outils d'intelligence artificielle, on est capable de générer des articles scientifiques ou des fausses données qui permettent de générer des articles scientifiques. Donc ça peut être assez inquiétant. Voilà, et donc sur les dernières slides, c'est surtout des références. Alors, je vous ai mis pas mal de références de livres sur le premier slide, des channels YouTube, enfin, des canaux pardon, YouTube avec des choses un peu intéressantes ou rigolotes ou sur comment faire de l'IA si ça intéresse certains d'entre vous d'essayer de développer leur propre modèle d'IA, des podcasts sur l'IA elle-même ou sur les impacts sur la société ou sur les femmes et l'IA. Des blogs aussi, par exemple de toutes les sociétés les plus à la mode faisant de l'IA pour savoir quelles sont les dernières news sur l'IA, et puis quelques cours pour ceux en ligne, pour ceux qui seraient intéressés, ou même un guide des métiers pour ceux qui voudraient s'orienter vers ces métiers.